ce vendredi 1er janvier. Notre équipe de ce soir, Yvan Tarlez, Indine Sadawi, Vincent Ritter et Marilyn Romain, vous souhaite bien sûr une très bonne année et une excellente fin de soirée. Je vous rappelle que pour cette nuit pas comme les autres, France Culture vous offre 6 heures en compagnie de Léo Ferré jusqu'à 7 heures ce matin. Bonsoir et à demain.
Toute l'équipe des Nuits de France Culture, Laurence Crémière, Marc Floriot, Nadia Joly, Nicole Valeron et Jacques Fayet, vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année avec moins de peine, bien sûr, et surtout plus de joie que l'année précédente. Merci à tous ceux qui nous écrivent, merci à ceux qui nous écoutent depuis maintenant plusieurs années avec fidélité, et bienvenue à ceux qui vont se joindre à nous dans le futur immédiat.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. Et sous le phare, d'un serment magique, ça va faire sa vie avec le temps.
Programme musical de France Culture. Avec le temps, une nuit avec Léo Ferré, Louis-Jean Calvé et Marc Legras. Groupe de réalisation, Pierre Bornard, Bernard Charron, Claude Guerre, Christine Robert.
Léo, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons dans le sablier de cette émission de quoi mesurer 6 heures de temps. 6 heures de nuit blanche. Blanche comme une carte blanche à Léo Ferré. Enfin, carte blanche presque. Car nous avons aussi nos munitions, des témoignages, des chansons, bien sûr. Et puis aussi des évocations historiques. Le tout devant servir à cette nuit de catalyseur de mémoire.
On le découvrira tout ça au fur et à mesure de l'émission. Ensemble, on va peut-être jouer, ruser, tricher parfois avec la chronologie. Quand je dis ensemble, je pense aux gens qui ont préparé cette émission, qui l'ont voulu, qui ont rassemblé tous les documents et qui les ont ordonnés. Mais pour commencer, quelque chose de tout récent que nous te laissons le soin de découvrir.
Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'est
nuit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs s'attardent de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdu. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
J'ai connu cette femme il y a quelques années. C'est une fille très simple et que j'ai beaucoup aimée. Comme ça, quoi. C'était la femme de Gainsbourg. Il voulait m'entendre tous les soirs dans un cabaret de la rue, je ne sais plus, de la rue, je ne sais plus comment ça s'appelle, les Saint-Père. Et quand j'arrivais, Gainsbourg me faisait signe avec les oreilles, comme ça, parce que je chantais la chanson de Pépé. Et fantastique. Ça m'a beaucoup ému, cette interprétation. Quand je dis interprétation, c'est un mot très employé. Je trouve que j'ai l'impression d'être seul, comme ça, loin de tout, et d'écouter une libellule qui me chante à moi. C'est une réussite. Ça me fait très plaisir d'avoir écouté cette chanson chantée par Jane. Merci, Jane.
Il y a un invité qui arrive par hasard.
Lui, je l'attends depuis des années. Lui. Je lui téléphone chez lui, il ne répond plus. Maintenant, il n'est plus là. Je ne sais plus où il est.
Je suis à côté de toi.
Jean-Pierre Chabrol, ça va?
Je suis content de te voir.
Ah, fais-moi la bise, ça va.
Moi, ça m'émeut de te voir depuis que je ne t'ai pas vu.
Et moi aussi, je suis content de te voir.
Tous les 31 décembre à minuit, j'ai un coup de téléphone blagueur de Léo.
Eh oui, mais l'année dernière, j'ai téléphoné, il n'était pas là.
Mais non, mon téléphone était coupé.
Ah.
Ça arrive à des gens très bien, ça, tu sais.
Ah bon? Ça va.
Oh, tu sais que je passe mon temps, moi, à chanter des chansons de Léo Ferré. Tout le temps. Je chante même des chansons que tu chantes plus depuis très longtemps.
T'as toujours la moto?
Ouais, toujours.
Ah oui?
Elle tourne et se nomme la terre. Elle tourne avec ses milliardaires. Elle tourne, le soleil se fout d'elle. C'est ma moto, ça.
Qu'est-ce que vous chantez encore de Ferré?
La vie t'a doublé, c'est pas régulier. Pour un pauvre lézard qui vit pas
dans la société. Mais la société, faut pas s'en mêler. Je suis un type à part, une graine d'ananas.
On me dit que t'as poussé en dessous d'un gibet où ton grand-papa
balançait des gars avec un collier.
Un collier tressé
de chanvre, il était un foutu foulard. Graine d'ananas.
T'avais des copains qui mangeaient ton pain, car le pain c'est fait
pour être partagé.
Dans la société, c'est pas moi qui le dis,
mais c'est Jésus-Christ, un foutu bavard. La gueule d'ananas.
Si t'avais des sous,
on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Si je n'en avais pas, on me dirait pourquoi
c'est jamais peinard.
La graine d'ananas.
Et c'est bien fini, je te le dis comme on le dit. Et tu seras pendu au nom de la loi
et de la société. La belle société
qui se met à se mêler de foutre au rancard.
La graine d'ananas.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid,
mais sur les corbeaux
boufferont ta peau
comme à l'étamine.
Mais auparavant,
j'aurais comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas.
Oh, dis donc ça, hein. Oh là là, faire un duo avec Léo Ferré, là, tu vois. Pour là, là. Je trouve que 88 s'annonce très bien, Léo. Moi, j'ai eu 7 des musiques et des poètes et une vie riche. Et puis que tous les gens qui l'aiment, qui sont autour de lui comme ça, et que sa cigarette est toujours bon goût, et qu'ils sachent qu'il a quelque part, comme ça, un copain sur lequel il peut compter. Lequel il peut téléphoner comme ça en disant « Voilà, j'ai besoin de toi, je peux pas te dire pourquoi arrive. » Et le copain arrive. Et ça, c'est fort. C'est ça la vraie richesse. Voilà. Ce que je souhaite à Léo.
Ouais, moi, je te souhaite pareil. On a deux, trois copains comme ça. On est des trains avec des rails, des fois, qui s'arrêtent juste au moment où il faut. Il n'y a plus de rails et t'es trop chabrol.
Hein? Et avec Léo, il se passe...
Ou alors, il n'y a plus de rails à Marseille. T'es trop mon copain là-bas.
Avec Léo, il se passe quelque chose entre sa tête et la mienne. Et j'en ai des preuves. Une fois, Léo me téléphone quelquefois, il ne m'écrit jamais. Et une fois, Léo m'a écrit une carte postale sur laquelle il y avait écrit « Jean-Pierre, je te sème, je t'aime, je te serre très fort dans mes bras, n'oublie pas que je suis ton Léo. » C'était posté à Aix-en-Provence le jour et l'heure de la mort de ma mère. Pourquoi tu m'as écrit ce jour-là?
Eh oui.
Comment tu l'as su? Et quand Brassens est mort, je m'en souviens toujours. Le téléphone qu'on a eu, moi j'étais très très heureux. Et la première personne à qui j'ai voulu téléphoner, c'est Léo, qui était chez lui en Italie à Castellina. Et il s'est passé cette chose absolument miraculeuse, c'est que j'ai fait le numéro, 19, etc., etc. À l'autre bout, on a décroché, et j'ai entendu une voix. J'avais pas dit allô, j'avais rien dit. Une voix qui a fait « C'est toi, Jean-Pierre ?» Et pendant une minute, on s'est écouté respirer, Léo et moi. On s'est dit « L'ami est parti. » Et on s'est écouté respirer. Et c'était extraordinaire, ça. Bon, je vous laisse travailler, allez. Salut Léo, je t'en prie, Steve.
Ciao.
Bonjour, Maria. Vous avez pas entendu,
j'en vois. Salut.
Charles Lindbergh and the presentation of the distinguished flying cross to that young man. Just as president awarded the cross to this boy. A great flock.
Lindbergh is coming down the gangplank.
Was released.
There's the boy. He's come forward. Unassuming, quiet, a little droop to his shoulders. He's tired out. Very serious and awfully nice.
On the evening of the 21st of May last, I arrived at Le Bourget, Paris. During the week I spent in France, the day in Belgium, and the short period.
Le soir du 21 mai dernier, je suis arrivé au Bourget à Paris. Durant la semaine que j'ai passée en France, en Belgique et à Londres, les Français et les Européens m'ont demandé de porter un message au peuple américain. En France, à chaque rassemblement, ce furent les mêmes mots. Vous avez maintenant la preuve de l'amitié qui lie les Français et les Américains.
Dans le petit salon mortuaire de North End à Boston, deux petits émigrants engoncés dans leur petit costume droit du dimanche ont attendu rigide la fin de l'assassinat de l'homme et des étoiles. L'un était marchand de poissons et l'autre était cordonnier. Les cops des services d'immigration les nommaient Sacco et Vanzetti. Ils sont partis sans baluchon, dans une culasse de grenade, où leurs cendres n'ont pu être démêlées. Ils sont partis à la recherche de travail sur d'autres étoiles, sœurs de celles qui furent électrocutées. Une nuit de matraque dans le monde, à la prison de Charlestown, dans l'état de Massachusetts.
Oui, c'est terrible, ça. C'était deux anarchistes. Et je comprends pas pourquoi les anarchistes se sont haïs. Ce sont les gens les plus généreux qui soient. Vraiment. J'ai connu deux anarchistes, moi. Des vrais. Ils habitaient chacun dans une maison dans le centre de la France. Un peu dans la montagne. Ils avaient chacun un chien. Et un autre était avec... Non pas sa femme, pas encore, avec sa compagne, comme disent les anarchistes. Et un jour, celui-là, il s'est marié. Alors ça a été le foutoir. Il s'est séparé de sa compagne, qui était devenue sa femme. L'anarchie, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est la négation de tout pouvoir d'où qu'ils viennent. Et tout à l'heure, j'étais dans un restaurant, je suis sorti. J'ai eu une espèce de gros dondon, une espèce de grosse, horrible chose. Une femme énorme, dégueulasse. Et quand je suis sorti, elle dit, voilà, anarchiste, je vous crache dessus. Elle m'a dit, alors, c'est fantastique, ça. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de vivre. Et on tue ceux qui ont le droit de vivre. Voilà, c'est comme ça. Je pense que, je me demande s'il y a des choses qui ont changé aujourd'hui. Quand même un peu. Mais pas tellement vis-à-vis des anarchistes. Vive l'anarchie.
Dans ce document, Léo, il y a un raccourci. 1927, l'Amérique, la traversée de l'Atlantique, une Amérique qui triomphe, et puis il y a l'autre Amérique. Lindbergh, cette traversée de l'Atlantique, c'est quelque chose que tu as entendu à la radio, toi ?
Oui, mais j'avais 11 ans, moi. Oui, ça m'avait frappé comme ça avait frappé tout le monde, quoi. Je voyais cet oiseau passer comme ça des heures et des heures. Ce type avait un moteur, quoi. Fantastique. Et... Il est arrivé comme ça, oui, je n'ai pas parlé d'abord, j'aurais dû en parler puisque ça a commencé par Lindbergh, l'intervention de Lindbergh dans cette émission-là, et parce que ça m'a frappé, j'ai été frappé terriblement par l'histoire de Sacco et Vanzetti, c'est pour ça que je n'avais pas parlé de Lindbergh, et Lindbergh après est rentré, puis on lui a fauché son petit, on l'a tué, quoi. Enfin...
À cette époque-là, tu te faisais une idée de l'Amérique comme quelque chose de très éloigné. Tu imaginais un continent, un pays ?
Oui, oh, tu sais, à l'école, la géographie, ça m'emmerdait plutôt, quoi. Moi, j'aimais bien les choses que je voyais, quoi. Hein ? la mer, la brume, quand il y en avait. Quand il y avait beaucoup de brume, là, j'étais à Monaco, sur la côte, avec cette mer fermée, quoi, quasiment fermée, quoi. C'est la raison pour laquelle, un jour, je suis allé, j'étais grand, j'étais en Bretagne, et j'ai vu la mer, la vraie mer. J'ai dit l'autre jour, tu vois, cette mer, je suis allé en Bretagne chanter, j'ai dit à quelqu'un qui était avec moi, tu vois, cette mer, elle se lave deux fois par jour. En Méditerranée, jamais. C'est pour ça que c'est dégueulasse en Méditerranée. Et les gens qui habitent aussi, quoi. Pas tous, mais enfin. Les gens qui habitent, sauf les anarchistes.
Et pour rester dans ces découvertes, la marée, la Bretagne 54 ou 50, Ravel, pour revenir aux années 30, tu as un souvenir de ta première écoute?
Ravel, je me souviens, oui. Il n'y a pas de disque, pas encore à ce moment-là, beaucoup, quoi. Il fallait être riche pour avoir des disques, un petit appareil comme ça. Puis c'était assez... Bah, c'est pas très bon, quoi. Et j'écoutais la musique, ce que je connaissais la musique, c'était la musique que j'écoutais, la musique vivante. Quand j'étais petit, je pouvais pas écouter de la musique, j'allais à l'église. Je mettais une petite pèlerine, j'allais à l'église, à Monacoville, quand il y avait des concerts, parce que je faisais partie de la chorale. Et c'est comme ça que j'ai connu Palestrina et Da Victoria. Et là, je trouve que... Vous savez, Honegger a dit en l'an 2000, plus de musique. Ça m'avait étonné qu'il ait dit ça un jour. Je m'étais mis en colère, j'ai dit, pourquoi tu dis ça à Suisse? Enfin, j'étais méchant en disant ça. Et je pense qu'il avait raison, parce que... En l'an 2000, pourquoi vraisemblablement il n'y aura plus de musique, comme disait Honegger? C'est parce que il y a trop de musique maintenant. Vous allez dans un magasin, vous achetez les 9 symphonies de Karajan, n'est-ce pas? Je dis bien les 9 symphonies de Karajan, Herbert von Karajan, hein. Voilà. C'est pas normal, ça. Et vous rentrez chez vous et vous écoutez pas Karajan, vous écoutez Beethoven. Ah! Alors là, vous êtes surpris, quoi. Vous comprenez? Alors là, j'allais au Casino Monte Carlo. Il y avait une salle. Ma mère m'a enlevé. Mon oncle, qui était mon parrain, était le secrétaire du théâtre. Alors, j'allais, quoi. Et à ce moment-là, à Monaco, tous les musiciens venaient, quoi. Du monde entier, des types extraordinaires. Et c'est là qu'on a créé, non pas créé, joué en deuxième audition. La première fois, c'était à Vienne, je crois. Parce que Ravel avait écrit le concerto pour la main gauche, sous la demande d'un pianiste manchot de guerre, Wittgenstein, n'est-ce pas? Alors le type lui avait fait le concerto pour la main gauche, et il était venu jouer à Monte Carlo, parce que Ravel n'était pas très content, parce que il avait trahi un peu la partition, parce qu'il n'était pas assez costaud pour jouer tout, n'est-ce pas? Et alors là, j'avais écouté ça, et j'avais vu Ravel à une répétition, comme ça, quoi, à 20-30 mètres de moi. Il s'était retourné, j'ai eu peur, et il m'a souri. Mais c'est une époque, monsieur, où on n'allait pas vers les artistes pour leur faire signer quelque chose. Ça ne serait pas venu à l'idée. J'ai l'impression que si j'avais été le voir, il m'aurait embrassé. Mais ça m'est pas venu à l'idée.
C'était quelle année, ça?
1931 ou 33, je crois, c'est ça.
Et tu es venu à Paris un peu après?
À Paris, je suis allé en 35, fin 35.
Léo, à quoi ressemblait le Paris que tu as découvert? Tu avais peut-être aussi imaginé cette ville, la ville dite Lumière, la capitale, tu l'avais imaginée de Monaco?
J'ai imaginé, oui.
Et tu as découvert quoi?
Mais j'ai recueilli dans le train, parce qu'à quelques kilomètres de Paris, on voyait, j'étais à la fenêtre de la portière, je regardais, de temps en temps, je voyais alors Paris, 60 kilomètres. Alors je disais, on va arriver dans 60 kilomètres. Paris, 40 kilomètres, troc. Alors quand je suis arrivé, j'étais heureux, les larmes aux yeux en descendant du train. Et c'était fantastique. Paris, c'était vraiment la ville, quoi. La ville. Après, qui a été investi, le grand mal de toutes les villes, d'ailleurs, c'est pas seulement à Paris, c'est l'investissement des villes par les voitures, quoi. Je me souviens, je dis toujours, quand j'étais à Saint-Germain-des-Prés, j'habitais rue Saint-Benoît. Dans une pension qui s'appelle les pensions de l'abbaye, qui doit exister toujours, je ne sais pas si c'est toujours une pension. Et je t'entends, on allait deux ou trois copains boire un demi en face là-bas chez Lip. Il fallait traverser le boulevard Saint-Germain. Je, sans trop exagérer, j'exagère un petit peu, parce que quand on raconte une histoire, on exagère toujours un peu pour faire bien comprendre aux gens, hein. Eh bien, quand on écoute, quand on entendait une voiture, on se retournait. Ah, une voiture qui passe. C'est vrai. Allez-y maintenant. Et alors, j'aime plus cette ville parce que c'est pour comme ça, quoi.
Léo, quand on découvre une ville comme Paris, on a envie d'aller voir tel ou tel lieu. Tu as eu envie de voir très précisément un lieu, un quartier de Paris ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, non. Je ne suis jamais allé voir les trucs que tout le monde va voir.
Tu aurais pu chercher les traces de...
La Tour Eiffel, je ne suis jamais allé.
Tu aurais pu chercher les traces d'un poète
Non, les traces d'un poète, ça s'imagine, ça ne se voit pas. Vous voulez voir les traces d'un poète
Tu t'es inscrit à l'université.
Je suis passé un jour aux rues France, campagne première, là. Là où on habitait un moment, Verlaine et Rimbaud. Je regardais comme ça, je suis passé.
Tu étais à la fac à l'époque ?
J'étais à la fac de droit, oui.
35, 36, tu as vu arriver 35, des 36, événements 37, hein ? Tu as vu des choses arriver ou se passer ?
Dans la rue ?
Oui.
Chez nous, ça ne m'intéressait pas.
Non ?
Non, je n'étais pas dans le coup du tout, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était la musique que je cachais, parce que je n'avais pas le droit d'être musicien. J'avais prétendu ne pas devoir être musicien, parce que quand j'étais... Je disais que j'étais musicien, on se moquait de moi. Un artiste, quand il n'est pas connu, on lui jette des pierres, même moralement, quoi. Ma mère m'appelait « Oh, poète, poète !»
Serons un gouvernement de bien public. Nous voulons rendre confiance en elle-même à l'Europe pacifique. Nous voulons rendre confiance en elle-même à la France laborieuse.
La victoire du Front populaire, c'est dans l'humble maison l'espoir de vaincre la misère.
On se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison.
Le Parti populaire français vous appelle. Venez avec lui pour barrer la route à la dictature soviétique et refaire une France indépendante, puissante, heureuse. PPF vaincra.
Première année d'existence ministérielle se termine, nous en commençons une autre, avec allégresse, avec confiance, avec fierté, sûr d'être soutenu par vous pendant cette seconde année, comme nous l'avons été pendant la première, et c'est ici, l'an prochain, à pareille date, que je vous donne rendez-vous.
Mais dans ma détresse, sans cesse, je pensais qu'une vie nouvelle, plus belle,
À travers toute son histoire, un idéal reste et demeure, l'émancipation matérielle et morale de la classe des travailleurs.
Maurice Torres, Roger Salingro, Maurice Violet, Pierre Caux. Et Léon Jou ont pris place dans la tribune d'honneur.
La solution, ce qui permettrait peut-être à la fois d'assurer le salut de l'Espagne et le salut de la paix, c'est... la conclusion d'une convention internationale par laquelle toutes les puissances s'engageraient à interdire l'exportation en Espagne du matériel.
Ah.
avons rencontré Julie, décidé de suspendre les autorisations d'exploitation au profit du gouvernement régulier d'une nation amie. Nous l'avons fait, nous avons dit pourquoi, en essayant par cet exemple enfin, courageux malgré tout, vous savez, en essayant par cet exemple de piquer d'honneur les autres puissances et de préparer ainsi la conclusion très rapide.
Quand on lutte dans les tranchées comme on le fait à présent, quand on meurt sur le front comme on meurt ces jours-ci, quand on défend l'Espagne comme la défendent les phalangistes et les soldats, c'est qu'il existe une race, c'est qu'il existe un peuple.
Camarades!
C'est terrible. Ils ont toujours raison, quoi. Mais je dois dire que... il y a quelqu'un et un gouvernement, quoi. Je vais vous raconter une histoire. Parce que je me suis rendu compte de ce qui s'était passé à ce moment-là. En 38, j'avais 22 ans. Nous partions l'été avec... ma famille, mon père avait un type qui prêtait une maison en Italie pour faire 300 kilomètres, il fallait une heure, c'était terrible en train, etc. Alors le soir, mon père me dit, ma mère me dit, tu vas porter les oiseaux chez tante Madeleine. Et la tante de ma mère avait une petite cage avec des... Non, ma mère avait une petite cage avec des canaris. Il fallait porter les oiseaux pour que tante Madeleine les garde. Alors je prends le tram, tchac, et je vais porter la cage. Et je reviens, et je me trouvais à 10h du soir, place du casino, devant le café de Paris, café comme ça, etc. Où on pouvait boire une bière pour pas beaucoup d'argent. Et en buvant une bière, on dansait. Mais c'était une époque où on dansait très comme ça, n'est-ce pas, écarté. Il n'est pas question qu'on dise à la fille avec qui on dansait, est-ce que vous venez avec moi après? Rien à faire. Ça n'existait pas, on n'y pensait même pas. C'était vraiment une époque, pourtant c'est pas le Moyen-Âge. Et c'est quand même pire que le Moyen-Âge, quoi. Et alors, je veux en venir là, j'avais 22 ans, et tout d'un coup, j'ai dansé avec cette fille en lui parlant de la lune, du beau temps, des conneries, quoi. J'entends sur moi quelqu'un qui tape sur mon épaule, comme ça. On entend, tac, tac. Je me retourne, c'était mon père. J'avais 22 ans. Et j'entends mon père qui me regarde, qui me parle pas, qui me fait... chut, avec le doigt comme ça, montrant la direction de la maison. Et j'ai suivi mon père. J'ai laissé la fille là. Je m'en voudrais toute ma vie d'avoir fait ça. Mais j'ai appris quelque chose. J'avais demandé à cette fille en lui disant, tu viens à Monaco comme ça l'été? Elle me dit oui, je suis congé payé. Et j'ai tout compris. Et j'ai salué, je salue encore Léon Blum et son gouvernement. Et Léon Blum, c'est lui. Sans lui, ça a été le premier, le seul. Il y a eu un an de gouvernement de gauche en France depuis la Révolution française. Un an, c'est tout. Léon Blum. Et le reste, c'est de la marmaille qui s'habille un habit pour se donner des airs. Hein? Voilà, ça me fait pleurer quand je pense à tout ça, parce que... il y a tout de même des gens bien, les gens bien, on les enterre, n'est-ce pas? Dès qu'on peut, trac, n'est-ce pas? Voilà. C'est dégueulasse, faut bien le dire, quoi.
Mais Léo, le fait que Blum ne soit pas intervenu en Espagne, ça avec le temps, le recul, ça te dit quoi?
Je ne me suis pas posé la question à ce moment-là et je n'ai pas pensé à ça.
Oui. Ouais. Aujourd'hui.
Je n'ai pas pensé à ça. Et aujourd'hui, je me demande, alors, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Évidemment.
Oh, m'a pas dit que les guitares de l'exil sonnaient parfois comme un clairon. Moi, mon ami l'Espagnol de la rue de Madrid, rencontré l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Oh, 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 la muerte. Je ne t'ai pas dit que les guitares de Paris pouvaient apprendre ta chanson. Toi, mon ami l'Espagnol de la rue de Madrid, rencontrer l'autre hiver une fleur sur l'air. Oh, 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 la muerte. Et puis tu es parti dans les rues de Paris et tu ne m'as rien dit. Yeah.